RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi demande à l'Indonésie d'appliquer le carburant B100. Le président de la République d'Indonésie a affirmé que les exportations et les investissements renforceraient l'économie indonésienne. L'Indonésie et le Vietnam préparent un plan d'action 2019-2023. Et enfin, le Qatar investit 500 millions de dollars américains en Indonésie. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a exigé l'utilisation de biodiesel de 20% ou B20 dans le pays. Le ministre indonésien de la coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le président Joko Widodo avait demandé à ses ministres de se préparer à utiliser le biodiesel à 100% ou B100. Selon le ministre, pour être en mesure de réaliser le plan du président, le secteur de l'énergie doit être amélioré et développé. Concernant la guerre commerciale actuellement, l'une des mesures les plus efficaces à supprimer les importations. Avec le projet de la mise en œuvre de B100, la dépendance des importations de pétrole brut pourra être réduite. Le ministre Luhut a également expliqué qu'avec la réalisation de B20, le gouvernement pourra sauver des devises étrangères près de 62 trillions rupiah. Les économies de devises proviennent de la diminution des importations de gazole qui ont pesé sur le pays. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple ou DPR d'Indonésie, Bambang Susatyo, a réaffirmé la position indonésienne liée à la crise humanitaire à Rohingya, le Myanmar, qui doit être résolue immédiatement. La question des Rohingyas au Myanmar doit être bien résolue immédiatement. Sinon, cela peut perturber la stabilité de la région de l'ASEAN. C'est ce qu'a été dit par Bambang Susatyo lors de sa rencontre avec le président de Singapour, Halimah Yacob, et le président parlementaire des membres de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, AIPA, au palais présidentiel de Singapour, mercredi. À cette occasion, Bambang a invité les pays membres de l'ASEAN à aider à trouver la meilleure solution à la crise humanitaire au Myanmar. Si ce problème n'est pas résolu immédiatement, on craint que cela perturbe l'avenir de l'ASEAN en tant que région économique stable, pacifique et ouverte. Lors de la réunion, le président de Singapour, Halimah Yacob, a demandé aux membres de l'AIPA de toujours compact et critique à une variété de problèmes dans la région ASEAN. Halimah espère également que la coopération dans la région de l'Asie pourrait être renforcée à nouveau. Le président indonésien Joko Widodo a de nouveau rappelé l'importance de la facilité d'investissement dans la région. Cela a été transmis par le président lors de l'inauguration des exportations d'un million d'unités de produits Toyota à Jakarta mercredi. Dans son discours, le président de la République d'Indonésie a déclaré que la facilité d'investir dans le pays, y compris dans les régions, était l'un des facteurs de la rapidité des investissements étrangers dans le pays. Selon le président Jokowi, le gouvernement au niveau central a une soumission unique en ligne qui pourrait être reproduite par le gouvernement local. Avec la facilité d'investir dans le pays et l'augmentation des activités d'exportation, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie serait en mesure d'encourager le développement économique tout en résolvant les problèmes économiques fondamentaux, notamment en résolvant le déficit de la balance commerciale. Je continuais à dire aux ministres, aux gouverneurs, aux régions et aux maires pour que les licences compliquées seraient bientôt résolues. Le gouvernement avait déjà une soumission en ligne unique pour que la vitesse de licence soit rapide. Dans les provinces, les régions et les villes, nous encourageons ce permis à être rapide. Je dois également nous rappeler à tous que de choses importantes, à savoir les exportations et les investissements, renforceront notre économie. Sans cela, ne vous attendez pas à ce que nous résolvions ce problème fondamental économique solide comme nous souhaitons. Si nous pouvons le faire, nos exportations augmenteront pour que nous puissions résoudre le déficit de la balance commerciale et également le déficit du compte courant. Le président Joko Widodo a exprimé son appréciation pour l'engagement de PT Toyota Motor à investir en Indonésie. Cumulativement, le volume des exportations de véhicules de marque Toyota atteint plus d'un million d'unités depuis la première expédition en 1987. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia a annoncé la réalisation positive des exportations de ses véhicules de janvier à juillet 2018, totalisant 117 200 unités. Ce volume a augmenté d'un 1,3% par rapport à la même période en 2017, avec un total de 115 800 unités. Après être succès de mettre en œuvre le plan d'action 2014-2018, dans divers domaines, l'Indonésie et le Vietnam préparent actuellement le prochain plan d'action 2019-2023. Les plans d'action comprennent le dialogue politique et diplomatique, la coopération dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la défense, de la promotion touristique et des échanges culturels et relations intercommunautaires ou de contact entre personnes. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, fera une visite bilatérale au Vietnam dans un proche avenir pour discuter plus de détails le plan d'action 2019-2023 avec le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quan, en commémoration de la fête nationale du Vietnam qui s'est tenue à Jakarta mardi soir le 4 septembre 2018.
We developed close cooperation in wide range of areas and coordination in major international and regional issues. And now we are waiting for next.
Nous avons développé une coopération étroite dans divers domaines et coordination dans les principaux questions internationales et régionales. Nous attendons maintenant un prochain plan d'action pour les années 2019 à 2023 qui sera signé lors de la visite du président Joko Widodo au Vietnam au début de septembre. Les deux parties sont déterminées à fixer les objectifs pour augmenter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars américains en 2020. Cette première visite d'État au Vietnam par le président Joko Widodo et la visite d'Indonésie du premier ministre vietnam en octobre sera certainement le moteur de notre coopération bilatérale et rapportera des choses importantes pour nos deux pays dans un avenir proche. L'ambassadeur Pham Vinh Quan a déclaré que le Vietnam et l'Indonésie avaient une longue histoire de relations étroites. Les deux pays partagent un contexte culturel commun, l'histoire de la lutte pour l'indépendance et la coordination des opinions du public dans divers forums régionaux et internationaux. C'est un fondement important de la mise en place du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie, signé en 2013. Un partenariat qui marque une nouvelle ère de coopération croissante entre les deux pays dans divers domaines. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la coopération en matière d'investissement entre l'Indonésie et le Qatar avait donné des résultats. Lors de nos réunions avec le Conseil du budget du Parlement indonésien, mercredi, le 5 septembre, le ministre Luhut a expliqué que le Qatar avait signé un accord d'investissement de 500 millions de dollars américains. Comme cité par Republica Online, le ministre mentionne des fonds d'investissement du Qatar pour développer des zones économiques spéciales de Mandalika à l'ouest de Nusa Tenggara. En outre, pour le développement ultérieur, le Qatar prévoit d'émettre un investissement supplémentaire de 900 millions de dollars américains. En plus du secteur du tourisme, le Qatar s'intéresse également au développement des investissements dans l'aquaculture à Banda Aceh et la sécurité alimentaire. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, les efforts de réduire l'affaiblissement de Rupiah. Le taux de change de Rupiah par rapport au dollar américain mercredi a continué de s'affaiblir. Les moyennes échanges interbancaires par dollar américain est supérieure à 14 900 Rupiah. Veuillez noter que l'affaiblissement du taux de change n'est pas seulement vécu par Rupiah. Certaines monnaies d'autres pays en développement ont également connu des faiblesses. La monnaie indienne s'est affaiblie de plus de 10%. Le Brésil, près de 20%. Même la Turquie et l'Argentine ont atteint plus de 40%. Bien que l'affaiblissement de la rupiah de 9,24% soit encore meilleur que celui des autres pays en développement, le taux de change de rupiah semble plus faible que celui des pays de l'Asie du Sud-Est. Le peso philippin a faibli à 6,99%, le ringgit malaisien à 2,23% et le dollar de Singapour à 2,96%. L'affaiblissement du taux de change de rupiah a été influencé par des sentiments négatifs tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Des sentiments négatifs de l'extérieur comme l'augmentation des taux d'intérêt du Federal Reserve, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et la crise qui a frappé la Turquie et l'Argentine. Tandis que les sentiments négatifs du pays incluent les achats de devises par les entreprises pour les importations qui sont encore grandes et le déficit de la balance de transactions courantes. Ce déficit par rapport au produit intérieur brut a atteint 3%, affectant ainsi le sentiment des investisseurs car les réserves de devises ont continué à se réunir pour combler le déficit. Le gouvernement et la Banque d'Indonésie ont travaillé ensemble pour réduire la dépréciation de rupiah. Banque Indonésie continue d'être sur le marché pour accroître le volume d'intervention sur le marché des changes et sur le marché des titres d'État. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Wardjo, a reconnu mardi que l'affaiblissement de rupiah n'est pas naturel car il ne reflète pas sa valeur fondamentale. Perry a souligné que le taux de change de rupiah a diminué mardi à 14 900 rupiah par dollar, n'est pas normal et ne devrait pas se produire. Alors, est-ce que cela signifie qu'il y a un acte spéculatif dans l'affaiblissement de rupiah? Pour le résoudre, le gouvernement menace d'imposer des sanctions strictes aux spéculateurs qui tentent de profiter de cette condition. Les menaces du gouvernement contre les spéculateurs de devises, comme l'ont déclaré la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati et le ministre de la Coordination de l'Économie Darmin Nasution. Par conséquent, le gouvernement devrait prévenir et agir contre les spéculateurs pour ne pas essayer de profiter de cette condition. Le gouvernement, la Banque d'Indonésie et l'autorité de services financiers doivent coopérer pour prévenir et sanctionner les spéculateurs. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 6 septembre 1961, la fin du premier sommet des non-alignés tenu à Belgrade, la Yougoslavie. Le premier sommet du mouvement des pays non-alignés a eu lieu du 1er au 6 septembre 1961 à Belgrade. Le sommet a produit un principe politique commun. Le principe politique est la politique fondée sur la coexistence pacifique sans bloc et n'est pas membre de l'alliance militaire et va éliminer le colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La première conférence des États non alignés en septembre 1961 à Belgrade a été considérée comme la continuation de la conférence afro-asiatique en 1955 à Bandung. 25 pays y ont participé, à savoir 8 pays d'Asie, 9 Africains, en Europe, à savoir la Yougoslavie, en Amérique latine, à savoir Cuba, et 6 pays arabes. La force motrice de la conférence est le président Joseph Broz Tito, qui se rapprochait des pays du tiers-monde, car il souhaite échapper à l'isolement des deux blocs. La conférence a également discuté de la discrimination raciale, l'assistance au progrès, au développement et désarmement. Le 6 septembre 1997, funérailles de la princesse Diana du Royaume-Uni. La cérémonie de funérailles de la princesse Diana a eu lieu le 6 septembre 1997. 6 jours après sa mort tragique dans un accident survenu dans le tunnel du pont de Alma à Paris, la France. Environ 2,5 milliards de personnes dans le monde ont assisté à la procession funéraire de la princesse Diana, directement ou par l'émission télévisée. La princesse, intitulée Princesse de Galles, est enterrée sur l'île entourée par le lac artificiel dans le parc Althorp, qui abrite la grande famille Spencer. Le 6 septembre 2007, l'opération Orchard était l'attaque aérienne israélienne sur le centre de la recherche agricole dans Deir Ezzor, en Syrie du Nord. Le 13 septembre, selon le Washington Post, le service de renseignement des États-Unis et l'Israël avait des informations sur l'installation nucléaire en Syrie étant construite avec l'aide de la Corée du Nord. Et l'attaque sur la cible est revendiquée est une installation qui est capable de fabriquer des armes non conventionnelles. La Syrie a protesté auprès de l'Organisation des Nations Unies le 11 septembre, mais n'a pas demandé quelle action de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également dit sa préoccupation sur cet incident. L'Israël a refusé de commenter cet incident. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Kalimantan Oriental cible 200 villages climatiques. Chaque district ou ville dans la province de Kalimantan Oriental cible à établir 20 programmes de campung climatique ou proclim
ou bien le village climatique jusqu'à 2030, de sorte que 10 districts ou municipalités, au moins il y aura 200 proclimes. Cela a été déclaré par le chef du bureau de l'environnement de la province de Kalimantan Oriental, Nur Sigit, à Samarinda, dimanche. Selon Nur Sigit, Proclim est un programme élaboré par le ministère de l'Environnement et des Forêts afin d'encourager la participation de toutes les parties à mettre en œuvre des actions locales. L'action locale vise à augmenter la résilience au changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'action locale liée aux conditions de chaque région, y compris la plantation d'arbres, la fabrication de plants médicinaux, fabrication de poubelles séparées pour les déchets organiques et non organiques et les autres. Nur Sigit a déclaré que le gouvernement donnerait des prix aux personnes qui ont fait l'adaptation et l'atténuation au changement climatique de manière durable sur le territoire de chaque village qui applique le programme de village climatique ou Proclim. Jusqu'en 2018, 841 villages dans la province de Kalimantan Oriental, il n'y a pas encore un village qui est nommé le village climatique. Selon les dernières données, en 2018, il y avait 8 villages qui ont signé à suivre Proclim, mais qui a réussi à échapper à la vérification initiale. Seulement 3 villages de Balikpapan qui sont préparés à être formés Proclim, à savoir Manggar Hijau, Tritip Bersinar et Mandala Pertiwi. Le programme de Kampung Iklim ou le programme de village climatique qui était encouragé par le gouvernement central depuis 2012 a été renforcé dans le Kalimantan Oriental par la déclaration Sendawar dans la région de Kutai West le 17 avril 2018. Dans la réunion des chefs de département de l'environnement, on est d'accord pour établir un réseau de travail et de développer des villages climatiques, au moins 20 villages climatiques dans chaque district. Le village climatique, selon Nur Sigit, fournira l'impact économique au bien-être de la communauté et d'augmenter les recettes locales. Pour réussir Proclim, il y a quelques jours, il a organisé également des ateliers afin que Kalimantan Oriental puisse accélérer la réalisation de la cible de Proclim. À l'occasion de l'atelier, M. Fadli de Global Green Growth Institute a suggéré que Proclim est inclus dans le plan de développement à moyen terme rural, de sorte que la mise en œuvre pour obtenir le soutien du budget du fonds de village étant inclus dans le budget du village. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la plage de Liang des Moluques. Vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct de www.voynews.id ou par on-court 3325 kHz ou par l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. La région de l'Est de l'Indonésie est célébrée pour ses belles et enchanteresses plages. L'une des plages est la plage de Liang, au village de Liang, au district de Salahutu, au Moluques central. La plage de Liang a également un autre nom, à savoir la plage de Himunia. Parmi les places les plus populaires à Ambon, la place de Lyon est sans conteste l'une des places préférées des résidents locaux et des touristes étrangers. La place de Lyon était célébrée depuis les années 90 et certains disent même que cette place est la plus belle place d'Indonésie. La place de Lyon, en raison de sa beauté, est souvent un sujet de conversation entre investisseurs étrangers. Ses qualités ont été reconnues par le Programme des Nations Unies pour le Développement, ou PNUD, qui a déterminé en 1990 que la place de Lyon était l'un des beaux sites en Indonésie. Une fois que vous entrez sur la place de Lyon située dans le village du même nom, dans le sous-district Salahutu, région des Moluques centrales, dans la province des Moluques, vous serez accueilli par le sable blanc mousseux exposé au soleil. En outre, la mer vous offrira une gradation de couleurs blanc, vert clair et bleu foncé. Il est très fascinant. La place de Lyon est célébrée comme la plus longue place de sable blanc d'Indonésie. Cette place vous offre l'ombre d'un arbre pour vous y asseoir et vous reposer tout en profitant de la beauté de la plage, en dégustant des boissons et des collations qui sont vendues par les marchands. Dans une partie de la place, il y a un quai en bois simple qui peut animer l'ambiance de la plage, parce que là-bas, il y a habituellement quelques visiteurs, notamment les enfants qui s'amusent à sauter dans les eaux de haute du quai. Pour arriver à la place de Lyon, vous pouvez utiliser un taxi moto depuis la ville d'Ambon en payant 50 000 rupiah. Mais si vous partez avec un groupe, vous pouvez louer un véhicule de transport public, un maximum de 10 personnes, en payant 200 000 rupiah. La distance entre le centre-ville d'Ambon et la place de Lyon, environ 40 km. Après être arrivé à la porte de la place de Lyon, vous entrez dans la place de Lyon, vous ne payez que 15 000 rupiah. Si vous voulez visiter cette place, vous devez considérer plusieurs choses, dont l'un est de visiter la place dans les mois où la mer est calme, c'est-à-dire de septembre à novembre ou bien d'avril à mai. Lorsque la mer est agitée, les eaux côtières deviennent troubles. Si vous êtes au Moluques et avez encore du temps, n'oubliez pas de se rendre à la belle place de Lyon et d'apporter un appareil photo, notamment pour ceux d'entre vous qui ont la photographie comme passe-temps, parce que chaque coin de la place mérite d'être immortalisé. Chers amis, c'était la rubrique Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Malangue. Ce soir, nous vous introduisons l'une des langues qui existe en province de Sulawesi du Sud-Est. C'est la langue Kulambaku. La langue Kulambaku, également connue sous le nom de langue Tulambatu, peut être parlée par la communauté aux régions de Konawe et Konawe Nord, en province de Sulawesi du Sud-Est. Il existe deux versions de la signification du mot Kulambaku. Selon la première version, Kulambaku vient du mot ku qui signifie descendre et baku qui signifie pierre. Donc le mot Kulambaku signifie l'endroit où une pierre descend. La version suivante dit Kulambaku vient du mot kula qui signifie bambou et baku qui signifie pierre. Donc Kulambaku signifie bambou de pierre. Il existe trois dialectes de la langue Kulambaku, le dialecte Lamunai, le dialecte Landawe parlé en région Konawe du Nord, et il y a aussi le dialecte de Torete sur la côte est de la région Konawe, précisément au village de Wawuraha. Selon le calcul de la dialectométrie effectué par l'Agence de développement linguistique, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, les différences de dialectes allaient de 67,58% jusqu'à 72,79%.
Nah, yang mungkin yang bukan juga terancam sih, tetapi
ce qui pourrait ne pas être menacé, mais nous devons donner la priorité en termes d'orientation, parce que cela ne conduit pas à l'extension. Cependant, il n'est pas arrivé au statut menacé. C'est la langue Kulambaku en région Konawe, région Konawe du Nord. Cela a des liens étroits avec la langue Bungku à Sulawesi Central. Les recherches menées par l'Institut d'été de la linguistique en 2006 ont identifié Kulambaku comme un dialecte de la langue Bungku à Sulawesi Central. Cependant, la dialectométrie entre la langue Kulambaku et la langue Bungku atteint 94,96%. Selon le Sandra Safitri Hanan, directrice du Bureau linguistique de Sulawesi du Sud-Est, la langue Kulambaku est presque disparue. La cause initiale était le petit nombre de locuteurs de la langue. La langue Kulambaku n'est répandue que dans certaines régions, même sa régénération est entravée.
Ya, tidak banyak juga karena daerah pemakai bahasa Kulambaku ini kan juga.
Il n'y en a pas beaucoup, car la zone d'utilisateur de la langue Kulambaku n'est que dans 3 ou 4 villages en région de Konawe du Nord et n'est pas étendue à d'autres régions. Donc c'est seulement là, c'est un peu, il y a longtemps, il y en avait peu. De plus, aujourd'hui, les enfants là-bas deviennent des locuteurs passifs. Le gouvernement indonésien ne garde pas le silence sur les conditions de la langue Kulambaku. Par le biais du Bureau linguistique de Sulawesi du Sud-Est, le gouvernement indonésien prévoit également de préserver la langue Kulambaku en créant un dictionnaire de la langue.
Sejauh ini untuk pembinaan pelestarian bahasa Kulambaku itu, kami sudah bekerja sama dengan.
Jusqu'à présent, pour guider et préserver la langue Kulambaku, nous avons collaboré avec le gouvernement de la région de Konawe du Nord en publiant un dictionnaire de la langue régionale Kulambaku. Le gouvernement de la région Konawe du Nord possède le plan de créer un événement, le festival de la langue et de la culture Kulambaku. À ce moment-là, nous venons de soumettre le dictionnaire de notre collaboration. Chers amis, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook, The Voice of Indonesia. The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la voix indonésienne dans le monde entier. Voici le magazine de musique pour l'édition de jeudi. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantées par Krisye. Krisye ou Christian Rahadi est né le 16 septembre 1949 à Jakarta et mort dans cette même ville le 30 mars 2007. Il est un chanteur et compositeur indonésien. Le magazine de Rolling Stone Indonesia le considère comme le troisième plus grand musicien indonésien de tout le temps. Un homme sino Betawi a un très long chemin à une carrière musicale. Krisye qui a été intéressé par la musique depuis son enfance et il a commencé sa carrière en tant que musicien en rejoignant avec la famille de Nasution dans un groupe appelé Gipsy comme bassiste. Gipsy était alors très populaire en Indonésie et aux États-Unis en 1969. Krisye avec son groupe a le contrat avec un restaurant indonésien pendant un an à New York aux États-Unis. En 1976, Krisye a gagné l'offre de chanter une chanson intitulée « Les petites bougies » par une station de radio privée en Indonésie. Grâce à cette chanson, Krisye était populaire en tant que chanteur solo. Bon, chers amis, voici une chanson de Krisye intitulée Hip Hip Hura.
Ingin hatiku mencium pipinya.
Segritok setelah sang song de Krisyo ang titule Hip Hip Hura, ang siyang tek ang trese pak la musique depuis song plus jeune âge, a commencé sa carrière de chanter solo ang 1977. La même année, il a sorti son premier album ang titule Jurang Pemisah. A cette époque, l'album était bien reçu par la communauté. Bon, Segritok, avant de plus connaître Krisyo, voici donc sa chanson suivante intitulée Quand le soleil couche. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Krisho intitulée « Quand le soleil couche », qui est l'une des chansons qui a également beaucoup de succès sur le marché. La chanson, créée par Guru Soekarno Putra, le fils du premier président de la République d'Indonésie, Insinyur Soekarno, raconte l'histoire d'amour de deux adolescents qui ne sont pas allés bien. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Krisho intitulées Galih Eratna e Kala Cinta Menggoda. Bon écoute et à demain.
Wow. dekat merenung kasihmu. Oh Lali, oh Lala, cintamu abadi. Wahai kami Tuhan.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.